Deutsche Welle. Pulsation.
À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, nous revenons cette semaine sur ce qu'est le Ramadan. Et en cette période de festival en plein air, nous allons aussi parler de musique avec la chanteuse marocaine Malika Zahra, mais aussi de littérature nigériane. Bonjour à toutes et à tous, c'est Aude Genswitel au micro. Vous êtes prêts? Ça va pulser.
Le saviez-vous?
Les musulmans du monde entier célèbrent à la fin de cette semaine l'Aïd el-Fitr, la fête de fin du Ramadan. Le Ramadan, c'est un mois de jeûne et de prière. Toutes les personnes d'âge adulte en bonne santé se privent de nourriture et de boissons du lever au coucher du soleil. Les croyants s'abstiennent aussi pendant la journée de fumer et d'avoir des relations sexuelles. Le Ramadan est considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam. C'est une période particulièrement consacrée à la foi et à la spiritualité. Pourquoi la date du Ramadan est-elle différente chaque année? Le Ramadan a lieu lors du 9e mois du calendrier musulman, un calendrier basé sur le cycle lunaire dans lequel un mois est un peu plus court qu'un mois du calendrier grégorien communément utilisé et qui est lui un calendrier solaire. À l'échelle d'une année, cela représente 11 ou 12 jours de moins et les dates du Ramadan se décalent donc pour être de plus en plus tôt dans l'année. Et quand il a lieu autour du mois de juin, comme cette année, les journées de jeûne sont particulièrement longues. La date de début du Ramadan peut aussi varier d'un jour selon les régions du monde et est souvent liée à l'observation de la lune. Au bout de 29 ou 30 jours de jeûne, on célèbre l'Aïd el-Fitr. En se rendant à la mosquée, en se retrouvant en famille, vêtue de beaux habits, on offre aussi généralement des cadeaux. La fête peut durer jusqu'à 3 jours. La pratique du jeûne est aussi observée dans d'autres religions, mais sous des formes différentes. Parmi les chrétiens, les catholiques et les orthodoxes font le carême pendant 40 jours avant Pâques, une période pendant laquelle on doit notamment s'abstenir de manger de la viande. Les catholiques observent aussi souvent un jeûne le jour du mercredi des cendres et du vendredi saint. Et chez les juifs, il y a 6 ou 7 jours de jeûne dans l'année, le plus important est celui de Yom Kippour. Rencontre à présent avec la chanteuse de jazz marocaine Malika Zahra. Malika Zahra est née dans le sud du Maroc, a grandi en France et a aussi vécu à New York. Autant d'influences qui se retrouvent dans sa musique. La chanteuse s'est produite le mois dernier à l'Africa Festival de Würzburg, dans le sud de l'Allemagne. J'ai pu la rencontrer après son concert. Malika Zahra nous raconte tout d'abord comment elle est arrivée au jazz.
Presque par hasard, parce que justement, en fait, on a tort de croire que le jazz est loin de la musique marocaine, loin de la musique africaine, puisque, en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi le jazz, personnellement, moi, j'avais aucune connaissance du jazz, mais à l'époque, pour choisir une école de musique, le lien qu'il y a, en fait, entre les deux, c'est l'improvisation. L'improvisation dans les musiques africaines, les musiques traditionnelles en général, dans beaucoup d'endroits. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le jazz. Tout simplement.
Donc dans votre musique, justement, on trouve des grands mélanges de sonorités entre l'Orient et l'Occident. Donc du jazz, on en parlait, mais il y a aussi les musiques marocaines qui sont présentes. Alors du chabi.
Le Maroc.
On parle de l'Afrique du Nord, pardon.
C'est pas du tout l'Orient. Et les gens du Moyen-Orient le font bien remarquer, donc je l'avais remarqué aussi. C'est vraiment la musique marocaine, en fait, c'est vraiment... c'est un mélange de la musique africaine, parce que c'est en Afrique, et avec les influences du Moyen-Orient, mais avec les influences de la musique... la musique andalouse, c'est aussi l'Europe. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Et c'est plus facile pour un musicien maghrébin de jouer de la musique du Moyen-Orient que l'inverse. Que les choses soient bien claires.
D'accord, mais donc la musique marocaine a une grande place dans ce que vous faites, notamment le chabi, le gnawa, des sonorités berbères aussi.
Tout à fait, oui. J'ai beaucoup écouté la musique traditionnelle à la maison. Tout ça fait partie de moi, de mon patrimoine, donc ça, bien sûr que j'utilise tout ça.
La diversité, elle est aussi linguistique, parce que vous chantez, alors si je ne me trompe pas, aussi bien en berbère, en arabe, en français, en anglais.
Voilà, en dialecte. Plutôt qu'arabe, l'arabe, le marocain dialectal, le dialecte marocain, l'anglais, le français et le berbère.
J'imagine qu'on n'exprime pas les mêmes choses selon la langue qu'on choisit, non ?
Oui, c'est pour ça que, en fait, c'est un peu grâce à ce problème, entre guillemets, que j'ai commencé en fait à chanter dans ma langue maternelle. Parce qu'en fait, au départ, donc j'ai commencé à chanter les standards de jazz. Et à chaque fois, j'oubliais tout le temps les textes parce que ce n'est pas quelque chose que je vivais naturellement. Et donc, quand j'ai commencé à moi-même écrire des petits textes, comme je ne me souvenais jamais de mes textes en anglais, j'ai vu dans le public que les gens étaient beaucoup plus réceptifs, il y avait probablement plus de sensibilité. Et c'est normal, puisque c'est ma langue maternelle, donc c'est normal que moi-même, j'ai plus d'émotions en fait, qui passent dans ce que je peux raconter.
Un moment important pour votre carrière, peut-être, ou ce qui vous a mis sur la voie au niveau de l'inspiration, c'était la rencontre à New York avec beaucoup d'autres cultures, enfin, surtout dans le domaine du jazz, c'est réputé évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé en fait là-bas pour vous ?
Alors d'abord, moi, les États-Unis, ça ne m'a jamais attirée. Je n'ai jamais pensé à aller là-bas. Et un jour, je me suis dit, bon, j'avais plus vraiment d'attache en France. Et je me suis dit, bon, c'est le moment d'aller faire un tour quand même à la Mecque du jazz. Parce qu'à l'époque, je faisais vraiment du jazz. Donc je me suis dit, bon, voilà, j'y vais pendant 3 mois. Et en fait, ça a été une très grande découverte pour moi. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville, de l'énergie en fait qu'il y a, et donc j'ai compris que je pouvais vraiment apprendre beaucoup de choses. C'est un nouveau pays, donc c'est beaucoup plus simple. Donc les relations aussi sont beaucoup plus simples. C'est des gens aussi qui vont vraiment de l'avant. Bon, il y a du pour et du contre, mais au moins, moi je sais que j'avais besoin, ayant grandi en France, d'apprendre le contraire, d'apprendre à être beaucoup plus dans l'action et ne pas faire que penser. Voilà.
Est-ce que c'était difficile de s'imposer dans le monde de la musique en tant que femme ? Ça a fait une différence selon vous ?
Ah, ça c'est sûr. C'est un monde d'hommes, ça c'est sûr. C'est soit d'hommes ou alors de séduction. Comme moi, je ne suis pas du tout dans ce truc de séduction, ce n'est pas évident. Mais bon, je pense que si, avec le temps, en tout cas, c'est pour ça que New York, ça a été vraiment important pour moi, parce que justement, j'ai trouvé que les gens étaient plus à l'écoute de ce qu'on avait à proposer que de l'image, des connaissances, etc. Donc c'était pour moi vraiment une bouée d'oxygène. New York, dans ce sens-là, ça m'a aussi permis à prendre plus confiance en moi et surtout après aussi d'avoir donc plein d'expériences avec des gens très différents. Donc j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et voilà, il y avait beaucoup moins de barrières pour moi. Donc du coup, ce monde d'hommes et de séduction, etc., en tout cas à New York, aux États-Unis, j'ai l'impression que j'ai gagné quand même un certain respect par mon travail. Voilà.
Est-ce qu'on peut vous parler de votre album Berber Taxi ? Pourquoi vous avez donné ce nom-là, en fait ?
Berber Taxi, parce que d'abord, ce morceau que j'ai intitulé Berber Taxi, c'est le premier morceau en fait, que ma mère m'a appris en berbère. Donc il y a ça, il y a aussi, ça m'a rappelé aussi le voyage de mes parents, le titre et un peu l'histoire de la famille.
Et qu'est-ce qu'on entend sur cet album ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ?
Davantage les musiques traditionnelles marocaines. Et puis j'ai pas mal travaillé dessus dans les voix, etc. Donc voilà, c'est un peu plus fini que le premier. Mais en même temps, c'est, le premier, c'est intéressant aussi parce que ça a été très rapide l'enregistrement. C'est un enregistrement un peu brut. Mais voilà, il y a quelque chose aussi de différent.
C'est votre premier passage à l'Africa Festival de Würzburg en Allemagne. Comment s'est passé le contact avec le public allemand ? C'était plutôt réussi, non ?
Alors j'ai déjà joué plusieurs fois en fait en Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays vraiment de musique quand même. Les gens sont Enfin, y a une culture musicale, quoi, d'écoute, de concerts, et ça se voit. Donc c'est toujours un plaisir de revenir jouer en Allemagne. Et puis là, c'est différent parce que c'est l'été, il fait chaud, donc c'est différent aussi. Les gens sont... peut-être ils expriment plus, même s'il fait très, 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 très chaud. Mais voilà, c'était un plaisir.
Merci beaucoup, Malika Zahra. Bonne continuation.
Merci beaucoup, Aude. À très bientôt.
Coup de projecteur.
Et cette semaine, nous braquons les projecteurs sur l'écrivain nigérian Wole Soyinka, qui a célébré lundi 13 juillet son 81e anniversaire. À la fois romancier, poète et dramaturge, il est aussi connu pour son grand engagement politique, sa lutte contre l'oppression et la corruption. Un engagement qui lui a valu plusieurs arrestations et incarcérations. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut citer « Les interprètes »,« Cet homme est mort », »,« Une saison d'anomie » ou encore « Hacker les années d'enfance ». En 1986, Wole Soyinka a été le premier écrivain africain à recevoir le prix Nobel de littérature. On referme ce numéro de Pulsation en musique avec Berber Taxi, chanson-titre du dernier album de Malika Zahra. Au revoir et à bientôt. Together.